Jogo d'amarelinha na linha, não vai pisar.
Bonjour à toutes et à tous, auditoris des Radio Assivière, ici Nini Villegas. Aujourd'hui, un nouveau rendez-vous avec le Centre international d'art et du paysage dans le cadre des Sons des Lilles. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Vanessa Desclos, résidence d'écriture au CIAP Assivière. Vanessa Desclos, elle est née en France, elle est curatrice critique d'art et enseignante. Et elle va rester pendant 12 semaines, de 13 au 26 avril 2025. Et simultanément, au temps des trois résidences des artistes tremplin que vous avez écouté aussi sur nos ondes, sur les ondes des Radio Assivière. Coucou Vanessa.
Salut Nini.
Ben merci d'être ici au rendez-vous ce matin. Ravie de t'accueillir.
Ouais, moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci.
Alors, est-ce que ça t'est dit de commencer avec une présentation et ton parcours aussi, parce que tu as mené aussi un doctorat en curating et tu es aujourd'hui au plateau des Mille Vaches pour faire une enquête.
Oui, c'est ça. Bah, moi, pour dire assez rapidement, parce que ça fait quand même assez longtemps que je travaille dans le milieu artistique, donc je vais peut-être pas te refaire tout l'historique, mais effectivement j'ai commencé dans le milieu de l'art avec mes études, mais aussi en travaillant comme commissaire d'exposition, curatrice, et en fait j'ai commencé à travailler à Londres dans un grand musée qui s'appelle la Tate Moderne, un lieu assez fantastique, assez magique, où j'ai travaillé à la production et à la programmation des performances. Donc je viens vraiment de cette niche un peu, tu vois, de l'art. Donc des artistes qui travaillent avec le vivant, leur corps, de manière très transdisciplinaire, avec la musique, le théâtre, la danse, la parole, la poésie. Donc voilà, je viens de cette pratique-là au départ, donc au sein d'une institution, au sein d'un musée. Et puis j'ai petit à petit développé un travail d'écriture, de recherche. Donc j'ai fait, comme tu disais, un doctorat. Mon doctorat, il m'a permis d'enquêter déjà à ce moment-là sur des questions qui me semblaient très politiques vis-à-vis de ma pratique. Quelle était ma relation aux artistes? Comment, en fait, on échappait à certaines injonctions du marché de l'art? On est dans un milieu quand même très compétitif, dans le milieu artistique, de plus en plus spéculatif aussi, où il y a des enjeux financiers qui nous échappent parce qu'ils concernent une toute petite partie des artistes. Et voilà, moi j'ai eu envie de passer du temps à savoir qu'est-ce que je voulais moi, qu'est-ce que j'attendais de ma relation aux artistes, pourquoi je faisais ce métier, pourquoi j'étais dans ce milieu. Et ça m'a obligée en fait aussi à prendre un peu de recul. Et finalement, c'est dans l'écriture et l'enseignement que j'ai trouvé ma place, je dirais, tu vois, une place où je me sentais un petit peu moins au cœur de ces questions de compétition, de signature, de voir un peu comme ça s'affirmer comme un auteur, une autrice. Dans le champ du commissariat, j'ai préféré prendre cette position d'autrice avec l'écriture, qui me semblait un petit peu plus, en tout cas qui me convenait mieux, et l'enseignement. Donc j'enseigne depuis 2011 à l'école d'art de Dijon. J'ai terminé ma thèse en parallèle et puis j'ai pris une pause de quelques années où je me suis occupée du service des publics du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA à Bordeaux. Donc je suis encore à Bordeaux, mais j'ai repris mon travail d'enseignante depuis le mois de septembre et j'ai surtout repris beaucoup ma recherche et mon travail de critique, et c'est aussi ce qui m'amène ici dans la montagne Limousine.
Alors, il est cool, Joël Brouche, comment il s'appelle?
Joël Brouche à Loara, le directeur de Loara. Ouais, tout à fait. Bon, on a eu l'occasion de collaborer, figure-toi, quand j'étais au FRAC. Donc, je m'occupais du service des publics et de la programmation culturelle. Et comme je te disais, j'ai vraiment une appétence pour la danse, la performance. Et j'ai invité, avec le soutien de Loara, un collectif de chorégraphes qui s'appelle La Tierce, à faire une résidence de création autour d'une œuvre de la collection du FRAC. Et donc Loara était partenaire à ce moment-là, et puis on a fait plein d'autres choses avec Loara, et il continue, puisque moi je travaille plus au FRAC, mais le FRAC est toujours à la MECA et continue ses collaborations avec Loara et avec Alka, tu sais, qui est l'agence du livre et du cinéma.
Oui, carrément, je vois bien. Et parle-nous un peu de cette envie d'articuler justement la recherche et la pédagogie dans cette pratique curatoriale transdisciplinaire.
Ouais. Bah, en fait, l'enseignement en école d'art, c'est vraiment très, très spécifique, puisqu'en fait, quand tu enseignes en école d'art, en tant que théoricienne, hein, bah, moi, tu vois, j'ai plutôt ce que j'enseigne, c'est l'histoire de l'art, la théorie de l'art. Mais comme je viens aussi d'une pratique professionnelle qui est le commissariat d'exposition, j'ai aussi voilà, des compétences un peu plus pratico-pratiques, tu vois, sur monter une exposition, monter un projet. Et ce que j'aime en école d'art, c'est qu'on est toujours entre les deux. On est toujours entre des savoirs, enfin moi en tout cas, dans ce que je fais, des savoirs théoriques. Et puis, on est au plus près de la création en train de se faire. On accompagne ces artistes qu'on essaye aussi de préparer en fait à un monde professionnel qui est de plus en plus complexe. Complexe parce qu'on le sait, économiquement et socialement et politiquement, la situation s'améliore pas d'année en année. Et puis moi, j'aime être à ces endroits qui sont très politisés aussi, où on est face à une jeunesse qui moi, me permet de rester un peu ancrée aussi dans ce qui concerne la jeunesse. Et ça, c'est très important pour moi. Donc voilà, l'école d'art a été un lieu à partir duquel aussi j'ai pu continuer à analyser, à comprendre le milieu dans lequel je travaillais, et puis pas que le milieu professionnel, plus largement. En fait, depuis les écoles d'art, on regarde le monde, et on regarde le monde avec un regard particulier. Et finalement, ce qui m'intéresse de trouver au-delà des écoles, et c'est ce que je suis un peu venue chercher ici pendant cette résidence, c'est comment après l'école, les artistes refusent parfois de rester vraiment dans cette position très vulnérable, très individuelle, et vont rechercher en fait à des espaces où ils peuvent mutualiser des savoirs et des outils, coopérer, travailler ensemble, créer des collectifs. Et ça, c'est vrai que alors ça existe dans les milieux urbains, moi à Bordeaux j'ai pu en témoigner, avant en région parisienne quand je vivais en région parisienne, en Bourgogne-Franche-Comté où j'enseigne, mais c'est vrai que je suis venue parce que j'avais eu déjà des échos, puis des contacts avec des artistes et plus généralement des gens qui travaillent dans le champ de l'art, qui sont ici, qui se sont installés ici, pour ces raisons-là, parce qu'il y a sur ce territoire la possibilité, l'envie, des énergies particulières qui font que les gens travaillent ensemble, et pas seulement par rapport à l'art. Et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est comment l'art en fait fait partie de notre monde économique, politique et social, et n'est pas une, en fait un entre-soi qu'on... Bien souvent, on nous renvoie ça comme image, tu vois, depuis l'extérieur. Et je comprends pourquoi. Hein. Je suis moi-même parfois assez étonnée à quel point ce milieu peut être exclusif, snob, je dirais. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti très tôt, moi, dans mon parcours. Mais par contre, comme j'aime l'art plus que tout, je peux pas en rester là. Donc j'ai l'impression, comme beaucoup d'autres personnes dont je me sens proche, je cherche sans arrêt... À voir qu'en fait l'art est avant tout une façon très belle en fait d'aborder notre monde, et moi je cherche à être au plus près de ça, d'en témoigner et de travailler avec les gens qui partagent en fait aussi des valeurs politiques, voilà, et c'est ça que je suis venue chercher ici.
Pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Je goûte à ma ligne et à vida que dura. Se un diamante tu invico, cuidado pour ti que va. Menina, pequenina, tonta de tanto chorar. Te choro malaco, e ela que vou me baiar. Le jeu de la marée, le va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
d'aborder notre monde et d'aborder notre existence, n'est-ce pas?
Ouais.
Oui, Vanessa Desclos, j'aimerais revenir aussi pour ces projets des résidences d'écriture au Centre international d'art et du paysage de l'île des Vassivières. Un projet d'écriture où tu vas mener des entretiens et des visites d'ateliers avec des artistes qui sont présents au château. Comment est-ce que tu as fait les choix de ces artistes et c'est qui ces artistes?
Alors en fait, j'ai d'abord fait le choix du territoire et bon, voilà, moi ce projet, je l'ai co-écrit avec une association qui m'accompagne qui s'appelle FEUN, qui est une association qui n'a pas de lieu, pas, qui est implantée à Bordeaux, mais qui travaille sur tout le territoire néo-aquitain et qui soutient en fait les pratiques curatoriales et critiques. Donc, et par ce biais-là, soutient évidemment l'ensemble de l'écosystème artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, il y a des institutions qui sont... Moi, je suis indépendante, mais j'enseigne dans une institution qui est une école d'art, et je travaille sans arrêt avec des institutions et souvent avec les centres d'art, parfois avec les FRAC. Et les centres d'art, c'est vraiment un maillage territorial qui est passionnant. Et on voulait... Ben moi, j'ai voulu écrire ce projet en collaboration avec deux centres d'art de la région, dont le SIAP. À Vassivière, qui est un lieu qui est unique, que tu connais bien puisque tu mènes ces émissions Sons des Lilles, donc tu es souvent en dialogue avec le centre d'art. C'est un bâtiment unique, c'est une situation géographique particulière et c'est un regard porté sur le paysage. Donc en fait, moi je me suis tournée vers Alexandra McIntosh, qui est la directrice actuelle du centre d'art, et je lui ai dit voilà, moi j'ai envie de faire cette résidence, voilà la temporalité. Dans cette temporalité, à quel moment ce serait le plus judicieux de venir? Parce que, tu sais, c'est quand même isolé. Et donc, l'idée, moi, j'ai besoin, toute seule, je ne fais pas grand-chose. Donc, j'ai besoin que les artistes soient là, d'être en dialogue avec les artistes. Et ce que j'avais envie, c'est qu'il y ait un intérieur du centre d'art et un extérieur. Donc, on a vraiment choisi ces deux semaines pour que je sois en partie en dialogue avec les résidents tremplins que tu as rencontrés récemment. Et les résidentes, Robin, Pauline et Laura, et qu'on puisse voilà, dialoguer à travers des visites d'ateliers. On se déplace ensemble, donc on était au lac du Chamet ensemble aussi la semaine dernière. Et puis un extérieur, c'est-à-dire que j'avais dès le départ écrit dans le projet que j'allais aller rencontrer des artistes qui vivent sur le territoire depuis parfois peu de temps, depuis parfois très longtemps. Et avec... Je les ai choisis parce qu'il me semblait, en tout cas, en fait, je viens vérifier ça, hein, c'est des hypothèses, il me semblait que dans leur pratique, il y avait des liens très spécifiques au territoire et que le choix du territoire correspondait à la fois à des questions sociales et politiques, mais aussi artistiques très spécifiques. Et donc c'est ça, c'est à travers des entretiens sonores que je récolte aussi la parole des artistes et qu'à posteriori, j'espère trouver une façon à travers des capsules sonores, un podcast peut-être plus long. Voilà, on verra ce que je vais faire avec ça.
On est ravis aussi et puis tu as les ondes des radios Assivières, bien entendu, pour nous faire part de toute cette recherche. Donc nous, on a accueilli les artistes en résidence Tremplin. Est-ce que tu suis les artistes qu'on a accueillis? Donc Laura Guastini, on a accueilli Pauline Tomasowski, Robin Cognez.
Oui, ça c'est les trois résidents de Tremplin.
Oui.
Il se trouve, en fait, c'est assez drôle. J'étais dans le jury du diplôme de Robin il y a 2 ans. Donc, c'est aussi des belles... Enfin, c'est des coïncidences, mais qui sont vraiment intéressantes.
Et c'est incroyable,
ouais,
c'est vrai.
Oui, ouais. J'étais dans son jury de NSEP comme membre extérieur.
À Poitiers.
Bah oui. Ouais. Et tu vois, c'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant. Alors, l'échelle régionale, elle est ce qu'elle est. Mais moi, c'est vrai que ça fait 6 ans que je suis à Bordeaux. Donc, j'ai passé 4 ans au FRAC, qui a aussi un rôle de rayonnement régional. Mais malheureusement, j'ai repris l'enseignement à Dijon. Donc, je m'apprête à quitter Bordeaux. Et cette résidence, c'était aussi une manière de... Voilà, pas de dire au revoir à la région, je pense que je vais continuer à nourrir mes liens avec cette région dont je suis moi-même originaire, en fait je suis originaire de Bordeaux. Mais c'était aussi vraiment de me donner un temps de travail assez particulier ici. Et donc oui, tu as cité les trois résidents de Tremplin, donc ça c'est vraiment des résidents qui sont accueillis au château, à Vassivière. Et en fait il y a 5 artistes que je rencontre dans le cadre de visites d'ateliers. Donc tout ça, c'est assez codifié, puisqu'en fait, je suis soutenue par Astre dans un cadre de projet de coopération de territoire. Et chaque artiste que je rencontre sous sa forme de visite d'atelier et d'entretien est rémunéré pour une visite d'atelier. Et ça fait partie aussi, tu sais, de la tension qu'on essaye d'avoir aussi au travail des artistes. Les artistes me donnent du temps, parfois toute une après-midi, toute une matinée pour parler avec moi. Et dans ce cadre-là, on les rémunère pour cette visite d'atelier. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Donc j'ai déjà rencontré, en fait, ce n'est pas que des artistes, j'ai rencontré aussi Adélaïde Blanc, qui est une curatrice elle-même, qui s'est installée il y a un an et demi dans la montagne Limousine. J'ai rencontré Lydia Lelong, qui est à Saint-Léonard-de-Noblat. Je rencontre Alexandre Chanoine demain, qui est plutôt un peu avant Guéret. Je vais un peu au bout des limites du PNR. Et je rencontre aussi Charlotte Victoire. Donc tu vois, il y a vraiment... Et Aéla Mekabel, qui est une artiste qui est basée à Aimoutier. Donc ça, c'est les 5 artistes que je rencontre dans ce cadre. Et puis en fait, j'arpente le territoire pour rencontrer d'autres structures. Donc je suis allée à Trégnac Project, dans le village de Trégnac.
Sambassu,
extraordinaire.
Bah,
tu vois, typiquement, je connais Trégnac depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer Sam en tant qu'artiste et en tant que... directeur avec Lise Meuret, sa compagne, de ce lieu. Et j'étais pas allée à Trégnac depuis 3 ans. Et là, j'ai vu aussi à quel point l'outil, Trégnac, c'est vraiment un outil de coopération avec les artistes. Alors, c'est pas un collectif aussi horizontal comme on peut le voir avec l'Amicale Millefeu ou d'autres collectifs comme ça qui existent, qui se sont installés plus récemment. Trégnac, c'est 2007. Et je pense que Sambassu, sous cette forme autogérée, comme ça, de lieu tenu par un artiste, c'est vraiment un des premiers aussi sur... Enfin, voilà, ça a vraiment une histoire maintenant. Et il travaille avec tous les collectifs dans la région. Il accueille beaucoup d'artistes pour des expositions et des résidences. Et il dote, en fait, Trégnac Project d'outils, un studio photo, un studio son. C'est vraiment extraordinaire comme initiative. Et c'est ça aussi que je trouve qui m'intéresse. C'est... Évidemment, moi, j'aime écrire sur l'art des dimensions esthétiques. Il y a des formes qui me parlent plus, il y a des démarches avec lesquelles je suis plus en affinité. Et ça va certainement aussi jouer un rôle dans ce que je vais écrire ou produire suite à cette résidence. Mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la dimension. Et pour moi, c'est indissociable. Tu vois, c'est difficile de dire, bon, bah, cet artiste-là, il fait des formes intéressantes. Mais par contre, la question politique... En fait, non, on peut jamais évacuer les questions économiques et politiques. Et aujourd'hui, en histoire de l'art, c'est beaucoup d'historiens de l'art ont vraiment pris ça en charge. Si tu veux, on peut pas dissocier l'homme de l'artiste. Tu sais, ça, c'est aussi des questions dans les épistémologies féministes. Le point de vue situé, c'est très important. Et ici, il y a une situation, il y a un contexte. Et j'essaye vraiment d'affiner ma compréhension en fait de ces dynamiques à l'échelle de vraiment très singulière de chaque projet ou de chaque pratique, mais aussi de comprendre aussi qu'il y a quelque chose qui est contextuel à la montagne Limousine et qui peut-être ne peut pas exister ailleurs qu'ici.
Aussi cette envie d'investir les territoires ruraux, puisque c'est pour cela aussi que tu es là. Et dans cette écriture, tu proposes justement de réfléchir à la manière dont les centres d'art contemporain en milieu rural tissent les liens avec leur territoire et leurs habitantes à travers une programmation diversifiée. Donc aujourd'hui, on ne va pas résoudre toutes les questions, les hypothèses, parce que tu es dans une genèse des recherches, mais aujourd'hui, tu pars sur quel prisme? C'est quoi les nuanciers que tu as parmi tous tes outils de travail?
En fait, il y a plusieurs choses dont j'essaie de ne pas être trop convaincue dès le départ, parce que comme je te disais, si on est trop... Enfin, je suis prête à être contredite, et puis moi, je ne viens pas d'un milieu rural, donc c'est quand même... J'avoue que... Voilà, je n'ai peut-être pas tous les outils non plus, mais... En fait, on le sait, le service public il y a une pénurie, tu vois, et on le voit depuis longtemps, mais je pense que les lieux ruraux et le contexte rural le sait depuis le plus longtemps que d'autres lieux. Et donc, on a vu aussi à quel point les gens trouvaient des ressources pour s'auto-organiser, ne pas dépendre. Complètement de l'argent public. Et aussi, on voit quelles alliances se tissent. En fait, il y a une plus grande horizontalité aussi dans les rapports entre... On sait à quel point c'est très important. Un centre d'art, c'est un lieu qui est public, qui est soutenu par de l'argent public. La DRAC, dans la manière dont elle aide les artistes à l'installation, à la création. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ici, en fait, il y a une plus grande horizontalité. C'est-à-dire que il n'y a pas la verticalité qu'il peut y avoir à certains endroits quand on dépend extrêmement fort de l'argent public ou de l'argent privé. Là, on voit que les personnes développent, en fait, mettent en commun. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens. Je suis allée voir Marianne Lanavert à Tarnac et elle m'a fait visiter la ferme de Goutaillou. Et on a beaucoup parlé ça, de qu'est-ce que ça veut dire que de mettre en commun. De repenser en fait de ne pas être dans un rapport binaire au privé et au public, mais de penser différemment nos ressources. Et puis c'est aussi se doter de compétences qui nous permettent une plus grande autonomie dans la manière et une plus grande appréhension critique en fait du monde sur comment nous nourrir, comment habiter. Comment aider aussi les autres. On a parlé d'Emmaüs à Tarnac et de comment aussi, la question de l'accueil des personnes en situation d'exil se passe ici. C'est tout ça que je trouve qu'il y a à l'échelle de ce territoire, une façon très différente de faire les choses que ce que je connais à Bordeaux, où je me suis aussi intéressée à ces questions.
On va évoquer les rétroplanines de ta venue, de ta résidence, ouais, d'écriture.
Donc en fait, je suis là depuis le 13 avril, j'ai déjà arpenté beaucoup, fait beaucoup de rencontres. Je rencontre encore plusieurs artistes, avec différents entretiens. Il y a encore des temps forts qui vont arriver. Jeudi, le Centre d'art reçoit Olga Boudin, qui est artiste et qui fait partie de l'Amicale Millefeu à La Selle, qui vient dans le cadre du programme Interférence. Donc j'ai rencontré Olga à l'Amicale Millefeu, j'ai découvert avec elle l'Amicale Millefeu, mais là on va vraiment être autour de sa pratique plus individuelle de la peinture et de l'écriture, jeudi au Centre d'art. Et puis je fais mon dernier entretien avec Aïla Mekabel vendredi 25 avril avant de repartir chez moi. Donc j'aborde la dernière partie de la résidence, puisque je suis là depuis déjà une dizaine de jours. Mais c'est vraiment plus tard, c'est cet été que je vais, et en septembre, avant ma rentrée à Dijon, que je vais vraiment consacrer 2 semaines à, si tu veux, traiter ma matière sonore. Et je prends beaucoup de notes, je rédige à chaque jour de résidence, je tiens un journal de bord où je rédige aussi des choses. Certaines choses vont être publiées aussi sur les réseaux sociaux par FUN. Mais je vais vraiment prendre 2 semaines pour l'écriture. Et donc, je te tiendrai au courant, parce que j'espère qu'il y aura peut-être des choses à diffuser avec Radio Assivière dans ce cadre-là.
Avec grand plaisir. Tu seras toujours la bienvenue. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, depuis le tout début, je me suis dit, il faut qu'on chemine ensemble. C'est beau projet. Et du coup, tu restes jusqu'à quand ?
Jusqu'au samedi 26 avril.
Et mise en bouche de ce que tu as déjà rencontré et échangé avec les artistes ou pas encore?
Oui, en fait, chaque rencontre, là, j'ai enregistré déjà 2 entretiens sur 5. J'enregistre pas tout parce que voilà, c'est pas le but non plus. Mais avec Adélaïde Blanc qui habite à Faux-la-Montagne et qui est assez impliquée dans la rénovation de travaux pratiques, et Adélaïde est curatrice, donc on vient de la même pratique, je dirais. Elle a travaillé longtemps dans des institutions et des centres d'art à Paris. Et aussi en Normandie, dans un FRAC. Donc, on avait beaucoup en commun. Et donc, j'étais très intéressée par la manière dont elle... le choix de venir vivre ici et comment elle va poursuivre sa pratique, quel pas de côté elle fait. Elle se reforme. Alors, moi, j'ai fait ça à un moment donné. Mais tu vois, j'ai fait une formation au podcast que je continue d'essayer de...
C'est pour ça que tu as cette belle voix.
Bah en tout cas, j'aime. Alors, j'ai ma voix, tu sais, personne n'aime sa voix. Je ne sais pas ce que tu penses de la tienne, elle est magnifique.
Moi, j'aime la mienne. Hein.
mais j'aime travailler avec les voix des autres. En tout cas, je me suis vraiment rendu compte de ça. Je le faisais beaucoup à l'écrit, par les citations, en citant les gens. Mais la voix, c'est quand même magnifique. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de travailler avec ça maintenant. Mais avec Adélaïde, c'était intéressant de parler aussi de qu'est-ce que ça veut dire de chercher une position un peu à l'écart, hein, tu vois, une position de retrait. Pas sortir du monde de l'art, mais y faire différemment. Donc ça a vraiment nourri beaucoup cette question. Et puis chacune se dote des compétences, en fait... De compétences différentes. Avec Lydia Lelong, c'était passionnant parce que Lydia, elle est en train de finir un CAP de menuiserie. Ça fait depuis 2016 hein, qu'elle est, après son diplôme à Limoges, qu'elle est restée. Elle s'est installée à Saint-Léonard de Nobla. Elle fait partie d'un collectif d'artistes, la Factory 87. Elle témoignait en fait du fait qu'elle avait une passion pour le faire, mais qu'il y a très peu d'occasions d'exposer. Et donc, elle disait qu'elle accumulait ses œuvres, qu'elle avait l'impression que pas beaucoup de gens voyaient. Et ça génère une frustration. Et finalement, économiquement, c'est très, très précaire. Et donc, elle redirige cette passion du faire dans une activité plus artisanale, plus industrielle. Enfin, ça va dépendre comment elle va pratiquer la menuiserie par la suite. Et elle dit que finalement, ça réouvre un autre espace pour l'art, plus conceptuel, plus collectif, puisqu'elle travaille beaucoup en collectif, et elle se redirige vers la performance. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment, quand on décide d'ouvrir sa pratique à une polyactivité, parfois pour des raisons de nécessité économique, ça rejaillit, ça transforme la pratique et ça la repositionne. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup ces récits-là que je collecte et que je vais mettre, que je vais essayer de mettre en perspective les uns avec les autres.
Et juste pour faire écho à ton propos, la matière sonore, c'est toujours une belle matière première à modeler. Il y a les émotions, il y a aussi les gestes, il y a plein de choses qu'on ne peut pas retranscrire dans l'écriture.
Oui, complètement. Avec Sam Bassu, tu vois, quand j'ai vu Trégnac, là, il a ouvert, il a rénové un espace pour l'association de pole dance de Trégnac, et il y a aussi un espace pour l'harmonie du village, c'est l'orchestre du village qui vient répéter là. Donc ce que j'aime aussi avec ces endroits, c'est que pour des raisons multiples, avec chaque fois des histoires différentes, c'est pas du tout des lieux qui se ferment sur l'art. Ils ont une définition de l'art qui reste extrêmement ouverte, qui n'exclut ni les pratiques amateurs ni les pratiques artisanales, et qui n'exclut surtout pas des pratiques plus convivial de la fête, de l'être ensemble, du débat. Et ça aussi, c'est tellement nécessaire d'avoir des espaces où on peut se retrouver et échanger et continuer en fait à se soutenir dans ces moments et d'agir ensemble, de ne pas rester fragmenté comme finalement on a l'impression que les pouvoirs publics nous se satisfont beaucoup plus de nous voir très divisés. Et on voit que dans ces lieux où parfois les questions politiques sont tendues, parce qu'il y a des cultures très différentes, il y a vraiment une volonté de se confronter au conflit et de pas rester divisé.
Divisé et aussi catégorisé, hein, quand même, parce qu'il y a toujours un tag, une catégorie, mais si tu es transdisciplinaire, c'est pas trop un spectacle vivant, mais c'est pas la création sonore, et du coup, c'est des impasses qui s'est créé aussi en face à ces artistes qui aiment la transdisciplinarité. Ouais.
complètement. Et de ne pas se faire catégoriser. Enfin, c'est difficile, hein, parce que de ne pas se faire catégoriser, on entend, tu vois, les étiquettes de néo-ruraux. Bon, voilà, on voit que ça divise aussi dans ces contextes les gens qui vivent là à l'année, les gens qui ont des maisons secondaires et qui ne font qu'aller et venir, qui gagnent leur argent ailleurs. Mais c'est aussi des lieux qui permettent à ces différentes personnes de se rencontrer et de voir que finalement, au-delà des... Alors voilà, moi j'essaye de pas être trop bisounours, hein, mais j'essaye aussi d'être optimiste parce qu'on est on est à un moment qui parfois est tellement inquiétant et politiquement, avec la montée de l'extrême droite, le sentiment, enfin, voilà, tu vois tout. Moi j'ai une étudiante qui est géorgienne et dont la mère a été expulsée récemment. Après avoir été mise en centre de rétention. Enfin voilà, c'est des situations, c'est concret, tu vois, c'est des choses qu'on vit. Alors avec plus, moi je me sens évidemment très privilégiée, mais c'est quand même, on touche quand même à une réalité économique, sociale et politique là qui est dure. Je pense plus dur en tout cas que moi ce que j'ai connu avant. Alors j'ai une quarantaine d'années, mais je veux dire c'est quand même, je pense pas qu'on exagère le trait. Donc j'ai aussi la sensation qu'ici quelque chose se vit et s'invente, essaye de s'inventer, non pas voilà de manière idéaliste ou utopique, mais dans le concret des choses. Et c'est aussi dans le peu de temps que je suis là, j'ai l'impression d'arriver à toucher un peu ça du doigt. Et j'ai envie de voilà de enfin. Je trouve ça assez exemplaire. Alors, c'est certainement pas parfait. Et encore une fois, je sais qu'en passant peu de temps, on a une vision voilà, assez fragmentaire, hein, partielle des choses. Mais ça me donne de l'énergie et du courage pour continuer dans moi, là où j'opère, avec ces exemples-là en tête.
Alors, en arrivant, tu m'as raconté que tu as fait un petit passage au Chamé. C'est quoi ton ressenti ?
En fait, j'avais entendu parler du Chamé via la commande artistique qui a été confiée à Michel Blasi et qui a été menée par le Centre d'Art via Guillaume Baudin, qui est l'ancien coordinateur artistique qui est parti depuis, qui bifurque lui aussi vers une pratique de la céramique et d'autres choses, mais tu l'inviteras peut-être pour en parler plus précisément. Et donc, j'ai vu Guillaume et je lui ai dit « j'aimerais beaucoup aller voir l'œuvre de Michel Blasi ». Et j'avais compris que l'œuvre de Michel Blasi se situait dans un contexte plus large d'un projet collectif de gens qui occupaient un ancien centre de vacances EDF laissé à l'abandon. Et donc Guillaume m'a mis en contact et j'y suis allée avec les résidents, avec Camille qui est coordinatrice artistique au centre d'art. Et Guillaume est venu aussi accompagné d'un autre artiste qui s'appelle Philippe Enders, hein, quelqu'un d'assez passionnant, de passionnant aussi. Et on était autour de Yannick, on a pu visiter une partie du site, découvrir effectivement comment la commande de Michel Blasi qui a été inaugurée en juin dernier, ça fait quand même 9 mois, 10 mois, et comment elle avait évolué. Parce que tu sais, c'est l'ancien réfectoire du centre de vacances. Donc dans le centre de vacances, il y avait quelques bâtiments en dur qui avaient tous et toutes des fonctions différentes. Et puis les gens, par contre, venaient plutôt planter leurs tentes, ce que j'ai compris. Donc il y a des bâtiments...
Nous avons des auditeurs, des auditrices qui ne connaissent pas les lieux, est-ce que ça t'est dit de faire un exercice radiophonique et d'écrire l'architecture?
Quand même. Donc le lac du Chamé, ça fait partie de ces différents lacs artificiels donc dans les environs. Et c'est dans la commune de Faux-la-Montagne, on est vraiment dans la forêt. Et en fait, en rentrant dans la forêt, alors il y a eu beaucoup de... ils ont aéré, ils ont bûcheronné pour rendre le site un peu plus accessible. Mais tu vois plusieurs bâtiments qui ont tous une esthétique, je sais pas, disons des années 70. Presque, on se croirait dans un film de Tarkovsky, un peu...
Futuriste,
quand même. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de bois. C'est quand même des chalets, mais ils ont des toits pointus... avec
des pyramides
qui permettaient certainement aussi de laisser rentrer la lumière. Donc des bâtiments petits, mais aussi des bâtiments beaucoup plus grands. Donc plein de formats de bâtiments différents. Et un de ces bâtiments, donc les personnes, donc, au départ, c'est un groupe de jeunes philosophes, étudiants, étudiantes, chercheurs en thèse, souvent précaires qui cherchaient aussi des lieux pour se retirer, étudier, chercher ensemble, passer du temps ensemble. Donc c'est comme ça, si j'ai bien compris, que l'occupation du site a commencé. Et assez rapidement, en fondant une association, des associations, chaque association a un projet très spécifique sur le site, ils ont dialogué avec EDF, avec la préfecture et avec la communauté de communes, et ils ont légalisé donc leur occupation, ils prennent soin du lieu, donc ils ont rénové des bâtiments. Donc il y a une bibliothèque de recherche, il y a des bâtiments qui permettent d'accueillir les gens avec des dortoirs, des lieux pour manger, pour se faire à manger. Voilà, il y a plus chaque lieu a des, il y a une école de la forêt qui a un projet très très particulier aussi, qui accueille des enfants. Et on a rencontré donc Yannick qui s'occupe de la bibliothèque, qui nous a fait un peu l'historique. En fait, c'est depuis 2018 hein, qu'ils sont sur le site et qui nous expliquait un peu le fonctionnement. Et dans l'ancien réfectoire, c'est là que la commande de Michel Blasi a pris place. Et le bâtiment était déjà en train de se détériorer. Donc il y a eu à la fois une volonté de le consolider, de consolider la structure, mais aussi d'altérer le bâtiment, donc de casser le sol pour retrouver la terre et faire des plantations à l'intérieur et de faire des percées aussi dans le toit pour laisser rentrer la lumière et faire que les plantes aient de la lumière et de l'eau. Donc en fait, c'est une sorte de ruine maîtrisée. Tu sais, esthétiquement, c'est très beau. Et ça s'appelle la cantine parce que ce qui a été planté, alors je crois que c'est Hervé Covès, agronome, qui a conseillé aussi Michel Blasi dans cette aventure. Et l'idée, c'était qu'on plante des arbres fruitiers, des plantes aromatiques. Et l'idée, c'était aussi que cette œuvre contribue à nourrir les gens qui vivent sur le site.
Et aussi, c'est donner la place à la nature pour prendre leur propre place. Quoi. Ouais. Elle s'étale, elle vit. C'est magnifique.
Et l'eau circule, tu vois, ça peut être complètement inondé. Et là, ils avaient installé des tables. Donc, quand c'est sec, les gens viennent manger à l'intérieur. Enfin, c'est un projet étonnant.
Magnifique. Et alors, on va boucler cette interview passionnante avec Vanessa Desclos. Merci d'être venue. Est-ce qu'on peut déjà donner des dates on peut aussi caler une prochaine rendez-vous. Mais déjà, tu reviens quand?
Alors, en fait, il y aura un moment de restitution, mais on l'a décalé. Enfin, en tout cas, on l'a projeté au printemps prochain. Pour vraiment se donner le temps, revenir un peu à la même saison. Et on est en train de réfléchir avec Alexandra McIntosh à ce que, voilà, comment, qu'est-ce qu'il y aura pour ce rendez-vous. Moi, je serai là et je vais certainement inviter des artistes qui ont participé aux échanges pour ce moment de discussion. Il y aura peut-être une performance aussi. Mais bon, je t'en dirai plus quand ce sera calé.
On va remercier aussi au dispositif Coopération, Création et Territoire 2024 Arts Plastiques et Visuels de la Nouvelle-Aquitaine qui s'inscrit dans le cadre du projet Trajectoire Artistique et Échappée Critique de la plateforme curatoriale Fond.
Fun, ouais.
Fun. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça. Je croyais que c'était FAUNE, Fun. Ouais. Ok, Fun. Donc les partenaires, c'est Fun, Bordeaux et les réseaux Astre, comme on l'a évoqué, réseaux art plastique et visuel. Et en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que tu as un site web, des réseaux, est-ce qu'on peut te suivre?
Alors oui, je suis sur les réseaux, j'aime pas communiquer, mais j'ai pas de site internet. Par contre, je publie des textes à différents endroits et vous pouvez me trouver facilement comme ça.
On te trouve Vanessa Desclos.
C'est ça.
Comme ça.
Alors j'ai une homonyme qui est égyptologue à la BNF, mais on se connaît bien et si quelqu'un se trompe, on se renvoie les messages.
C'est magnifique, c'est très beau. Ben, et merci Vanessa Desclos.
Merci Mimi de m'avoir accueillie.
D'avoir partagé ces moments passionnants. Je vous rappelle que vous écoutez la radio de la montagne Limousine et à Bordeaux, on écoute Radio Vassivière sur radiovassivière.com. Merci. Tu mets tes pieds. La 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 la